L'Église orthodoxe, aujourd'hui. Bonjour à tous. Durant plus de 40 ans, une moitié de l'Europe a été dominée par des régimes communistes qui, dans leur athéisme militant, ont agi contre Dieu, mais aussi contre l'homme. Vers la fin de l'année 1989, ces régimes de l'Europe de l'Est sont tombés les uns après les autres, tout comme le mur de Berlin, symbole d'un rideau de fer qui divisait le monde entier. Si la plupart de ces changements politiques ont eu lieu d'une façon pacifique, sans victimes, comme la révolution de velours en Tchécoslovaquie, seulement la Roumanie a payé un lourd prix de sang pour se libérer de la dictature communiste. Commencée le 16 décembre 1989 à Timișoara, la révolution roumaine a culminé le 21 à Bucarest. Le lendemain, effrayé, le dictateur Ceaușescu a pris la fuite en hélicoptère. Pour la plupart des jeunes, les insurgés ont scandé « Dieu est avec nous », verset tiré de la prophétie d'Isaïe qui est chantée dans l'église orthodoxe pendant cette période du carême de Noël. De temps en temps, les manifestants s'agenouillaient et priaient ensemble le Notre Père. Mais nombreux de ces chrétiens qui ont manifesté sans violence ont été fusillés dans la rue. Au total, 1104 personnes ont été tuées, dont plus de la moitié dans la capitale, et 3321 ont été blessés. Ainsi, en Roumanie, après avoir fait d'innombrables victimes depuis son installation au pouvoir, le communisme a montré jusqu'à la fin son vrai visage de régime criminel. 20 ans après, les héros de la Révolution sont honorés toujours dans la cathédrale orthodoxe roumaine des Saints Archanges à Paris. C'est ici que je me suis entretenu avec le père Jean Boboc. Je lui ai demandé d'abord de nous parler de la Révolution roumaine.
Je vous remercie de me poser cette question et je voudrais m'arrêter d'abord sur un premier terme que vous avez utilisé. Vous avez dit « révolution roumaine ». Alors c'est une chance que vous posiez la question sous cette forme parce que, d'une façon générale, je vois dans la presse occidentale que l'on parle beaucoup plus d'un coup d'État qui aura été fait à l'instigation d'ailleurs de la Russie, ce qui est probablement la réalité. Mais ce coup d'État a été dépassé très rapidement par la réalité populaire qui a transformé un coup d'État intra-communiste, si l'on peut dire, en une véritable révolution nationale. Il y a eu beaucoup trop de victimes lors de ces événements pour parler d'un simple coup d'État. C'est une révolution, et d'ailleurs qui n'est pas terminée. Ça fait donc 20 ans que les événements ont eu lieu, et la récente élection du président roumain, qui a été donc reconfirmée pour un second mandat, est tout à fait dans la lignée de la poursuite de cette révolution, puisqu'il s'efforce de nettoyer tout ce qui relève de l'ancien pouvoir communiste, qui a laissé quand même des traces considérables, notamment par la gêne permanente que les gouvernements successifs ont d'essayer de créer des réformes qui sont systématiquement boycottées. Donc véritablement, il y a eu une révolution, et cette révolution n'est pas totalement terminée, elle se termine maintenant, et prions Dieu que, sous ce nouveau mandat présidentiel, M. Băsescu puisse obtenir les résultats qu'il mérite, et que la nation mérite naturellement.
Donc on peut dire que les 1000 morts que la révolution roumaine a compté il y a 20 ans sont commémorés ces jours-ci, notamment à l'église cathédrale roumaine de Paris, la paroisse des Saints Archanges.
Bien entendu, vous savez que dans l'office orthodoxe, il existe un moment très précis où l'on, non seulement l'on commémore les morts, mais l'on prie pour les vivants et pour les morts, d'ailleurs dans la communion des vivants et des morts, et on prie pour des intentions particulières. Et nous avons toujours l'habitude, durant toutes nos liturgies, de prier pour les morts durant les guerres, de prier aussi pour ceux qui ont disparu, qui sont disparus lors des déportations et dont on n'entend plus parler. Je pense essentiellement aux Roumains de Bessarabie, c'est-à-dire de la République de Moldavie, aux Roumains de la Bucovine, aujourd'hui intégrés à l'Ukraine, dont une grande partie a été déportée en Sibérie et dans différents endroits du Goulag et dont on n'a plus de nouvelles. Donc nous sommes habitués à prier régulièrement pour l'ensemble de ses frères et naturellement nous incluons depuis quelques années dans nos prières tous les morts de cette révolution. la plupart d'ailleurs de très jeunes gens qui, dans l'enthousiasme, ne se sont pas rendus compte sur le coup des dangers qu'ils encouraient, alors que l'armée n'avait pas encore retourné sa veste. Et donc ils ont été les victimes, essentiellement des jeunes, ont été des victimes de cette révolution.
Le régime communiste s'est imposé en Roumanie par l'Union soviétique, et c'est un régime athéiste militant qui était tout à fait contraire à la culture roumaine et à l'esprit, à la spiritualité roumaine chrétienne orthodoxe. Et donc la Roumanie a dû subir pendant 45 ans ce régime sans Dieu. Mais il y a eu toujours pendant toute cette période-là une communauté des Roumains exilés à Paris, réunie autour de l'église roumaine de Paris, l'église de Saint-Archange, qui a essayé d'une façon permanente à lutter contre cette politique qui s'est installée à Bucarest, n'est-ce pas ?
Vous avez tout à fait raison. L'installation du régime communiste en Roumanie s'est faite sous la pression de l'armée rouge d'occupation. Le parti communiste, avant l'invasion par les armées soviétiques, était pratiquement inexistant en Roumanie. Statistiquement, n'avait aucune signification politique. C'était un régime athée qui a d'emblée manifesté son activité anti-religieuse, et on ne peut pas mentionner cette période sans immédiatement rappeler le nombre important de prêtres, de diacres, de moines, de moniales qui ont été arrêtés, torturés, assassinés ou envoyés dans des camps. On fait parfois le procès, je l'ai vu dans différents journaux, des autorités religieuses de Roumanie sous prétexte ou motif qu'elles auraient plus ou moins collaboré avec le régime. En fait, il y a certainement eu des faiblesses, mais il y a eu une stratégie générale qui a été de tenter le maximum pour sauver l'Église de la destruction totale. Et je peux dire que c'est un peu la différence que l'on peut observer entre ce qui s'est passé en URSS et en Roumanie. L'URSS, dans une politique démentielle, a tué des milliers de prêtres. Alors évidemment, c'était un pays immense, et à l'échelle, on ne peut pas faire de comparaison avec la Roumanie. Mais si beaucoup de prêtres ont péri en Roumanie à cause du communisme, le ratio, si vous voulez, n'est pas du tout le même. Et la démence n'a pas non plus été la même, quand bien même il y a eu des camps qui ont été d'une horreur indicible. Je pense à Sighet, je pense à Pitech, je pense à Ayoud, je pense à tous ceux qui étaient envoyés dans ce qu'on appelait le canal, etc. Ce n'est plus le jour aujourd'hui de sans cesse répéter la même chose, mais il faut reconnaître que certains patriarches ont su habilement éviter la catastrophe. Alors évidemment, aujourd'hui, on est dans une situation totalement différente. Nous avons un nouveau patriarche, et on en parlera peut-être dans quelques instants. Mais vous avez dit tout à l'heure qu'autour de l'Église roumaine, pendant ces périodes noires, s'étaient regroupés un certain nombre d'intellectuels et de gens qui avaient la capacité de mener une lutte anticommuniste.
Il faut aussi rappeler qu'en tête de file, c'était un évêque qui est venu de Roumanie, justement, et qu'il y a eu aussi des évêques en Roumanie qui ont été persécutés par le régime parce qu'ils n'ont pas voulu collaborer. Et je pense à l'évêque d'Oradea, Nicolae Popovici, qui a refusé jusqu'à la fin de sa vie de signer quoi que ce soit que le régime lui demandait. Et aussi le patriarche Nicodime, qui est mort dans des conditions obscur.
Oui, vous avez tout à fait raison. Et je mentionnerai, pour aller dans le sens de ce que vous dites, l'arrivée en France en 1947 de Monseigneur l'archevêque Vissarion Puiu, condamné à mort en Roumanie, qui a d'ailleurs fondé, dès son arrivée ici, l'Association pour la pratique du culte orthodoxe roumain, l'Association de l'éparchie orthodoxe roumaine, etc. Un homme qui était très actif. Mais en dehors de cette personnalité extrêmement marquante, et même en dehors de l'Église, il y a eu beaucoup d'institutions qui se sont créées. Je voudrais mentionner par exemple la Fondation Charles Ier. J'étais très jeune que je fréquentais cette fondation, qui était admirable. Et il y avait le Centre de Recherche Culturelle, il y avait la Bibliothèque de Freiburg, il y avait dans chaque capitale d'Europe occidentale des cercles intellectuels et des cercles littéraires, par exemple. Je me rappelle très bien, je fréquentais à l'époque le cercle de Mamaliga, qui était un cercle tout à fait restreint, mais où toutes les figures que l'on connaît de la littérature franco-roumaine ou de la littérature française d'origine roumaine étaient présentes.
Il faut dire aussi que la communauté roumaine de Paris a coupé tout lien avec l'État roumain, devenu communiste, et avec le patriarcat roumain, qui était le patriarcat désormais d'un État communiste.
Tout à fait, et alors cela a posé deux sortes de problèmes. La rupture avec le patriarcat de Roumanie a donc obligé à trouver des solutions de façon à ce que la vie ecclésiale soit couverte par un évêque. Et sur le plan des intellectuels, ça posait un autre problème parce que la coupure avec non seulement la langue, mais la coupure avec la vie quotidienne a entraîné donc des modifications d'appréciation. Et on ne peut pas dire que après 30 ou 40 ans, des gens qui étaient arrivés à l'âge de 25 ans soient restés exactement les mêmes. Ils se sont européanisés et ont vu l'histoire de la Roumanie et le futur de la Roumanie d'une autre façon. D'ailleurs, c'est tellement vrai que ceux qui viennent d'arriver récemment et qui ne sont pas spécifiquement des intellectuels, mais qui sont des travailleurs plus ou moins qualifiés, que ce soit en Italie, en France, en Espagne ou ailleurs, ont tous voté, je dirais dans le bon sens, même si un prêtre n'a pas à s'impliquer là-dedans, mais ont voté anticommuniste et ont d'ailleurs peut-être fait le jeu des élections, parce que si la différence entre la gauche et la droite était extrêmement faible, on peut dire que c'est finalement la diaspora qui a fait la décision.
Les exilés roumains se sont occidentalisés, forcément, en arrivant à Paris. Mais vous, vous êtes né ici et vous venez d'une famille franco-roumaine. Vous êtes baptisé dans l'église roumaine de Paris, vous êtes marié ici. Et depuis très jeune, vous êtes impliqué dans une activité anticommuniste. Donc qu'est-ce que ça représentait aussi pour vous, comme quelqu'un qui était né ici et qui n'a pas connu le régime installé en Roumanie sur place?
Eh bien, j'ai eu la chance effectivement de ne pas connaître le régime et surtout de vivre sous ce type de régime. Mais j'ai eu aussi une autre chance, c'était de connaître très jeune une pléiade d'hommes remarquables et être, comment dirais-je, formé plus ou moins par des écrivains, des artistes, etc. C'est une chance inouïe pour un jeune. Ceci explique un peu cela. Et donc ma roumanisation, entre guillemets, est essentiellement liée à la rencontre d'hommes de très grand niveau. J'ai vraiment connu pendant une vingtaine d'années ce qui faisait le fleuron de la littérature roumaine en France, oui.
Et quelle était la nature de l'implication donc, des Roumains de Paris dans des activités contre le régime communiste de Roumanie?
Le premier type d'implication était d'abord de tenter de faire connaître la réalité des choses. Et ce n'était pas facile, parce que notamment en France, il y a quand même une culture, entre guillemets, de gauche. Et faire passer des articles dans les journaux, c'était parfois le parcours du combattant. Mais enfin, il y avait quand même des gens qui nous ont bien aidés. Donc publication, réunion culturelle, émission et un forcing permanent auprès des gouvernements pour faire connaître les réalités, soumettre des dossiers difficiles, etc. Par exemple, j'ai eu l'occasion de soumettre au président de la République, M. Giscard d'Estaing, un certain nombre de dossiers. Certains ont abouti, d'autres non. J'avais, pour les personnalités religieuses, été auprès du cardinal Marty. Certains dossiers ont été bien reçus, d'autres moins. Mais je raconte ça uniquement comme anecdote, parce que ça vous montre que ce qu'à titre personnel j'ai pu faire, il faut le multiplier par des milliers de personnes. Et donc ça a fini par avoir un effet. La situation a été enfin connue. Et dans les dernières années du communisme, on réussissait à faire sortir des gens qui étaient en prison sur la crainte qu'avait le régime communiste qu'il y ait un écho en Occident très important à leur sujet.
Donc ça, c'était un côté de votre activité, de faire comprendre à la société française et occidentale plus généralement la situation réelle de la Roumanie communiste. Mais il y avait un autre côté aussi, de faire comprendre aux Roumains de Roumanie eux-mêmes ce qui s'est passé vraiment dans leur pays, parce que le pouvoir communiste, notamment la dictature de Ceausescu, contrôlait complètement tous les médias. Donc la seule possibilité pour les Roumains d'apprendre vraiment ce qui s'est passé chez eux, c'était d'écouter les émissions de radio qui étaient diffusées d'Occident, l'Europe libre et la voix de l'Amérique.
J'ai eu la chance de vivre des deux côtés de l'Atlantique et d'avoir donné des interviews tant à la voix de l'Amérique qu'à Radio Free Europe. Et je me souviens donc très bien des modalités de ces diffusions. Et parfois, je me disais, et d'autres se disaient aussi avec moi, mais quel impact cela peut-il avoir dans la mesure où ces émissions sont brouillées là-bas, etc. Et lorsque je suis allé pour la première fois en Roumanie, et je n'ai pas pu y retourner après pour des raisons politiques, j'avais rencontré des membres de ma famille qui m'avaient dit « Mais tu sais, tu nous joues de mauvais tours parce qu'on t'entend ». Et ça m'avait rassuré. Ça voulait dire que de simples émissions de 10 minutes, qui n'étaient d'ailleurs même pas à l'époque faites en roumain, j'avais donné des interviews en langue française ou en langue anglaise, avaient été entendues. Or, si à l'époque je n'avais pas beaucoup de responsabilités, je n'étais qu'un étudiant en médecine, et je pense donc que tous les écrivains ou anciens membres du gouvernement ou toutes les personnes qui avaient des positions importantes qui participaient à ces émissions étaient entendues en Roumanie et donc maintenaient vivante la flamme. Mais...
C'est ainsi aussi que les Roumains ont appris tout ce qui s'est passé en Europe en 1989. Il y avait tout ce souffle nouveau qui faisait tomber les uns après les autres les régimes communistes de l'Est. Mais en Roumanie, apparemment, rien ne s'est passé jusqu'au moment quand la ville de Timișoara s'est embrasée d'abord et ensuite il y a eu tous ces soulèvements à Bucarest. Donc on peut dire que la révolution roumaine a été d'une certaine façon préparée à travers toutes ces activités qui étaient menées aussi par les exilés roumains de Paris.
C'est vrai, mais il faut surtout mentionner l'effet de domino. S'il n'y avait pas eu des révolutions antérieures dans d'autres pays voisins de la Roumanie, je ne sais pas si la Roumanie aurait fait cette révolution au même moment.
Je vous invite à faire un bref bilan de ces 20 ans depuis la révolution roumaine, parce que on peut dire qu'au bout de ces 20 ans, il y a eu aussi une réconciliation, une réunion entre l'Église roumaine de Paris et le patriarcat roumain.
Alors ça, c'est l'autre volet qui est le plus intéressant pour nous ce soir concernant l'Église, n'est-ce pas ? Les rapports avaient été brisés en 47, 49, etc. Mais je crois qu'aujourd'hui, on peut dire ça. Nous savons, en tout cas, pour ma part, je sais que nous avions envoyé des émissaires à plusieurs reprises à Bucarest auprès du patriarcat roumain. Et qu'il nous a été dit, n'écoutez pas ce que nous disons et continuez dans la voie où vous êtes engagés.
Ce que vous recevez de nous, c'est pas de nous.
Exactement, c'est ça. C'était ça le sens. Mais c'était aussi un encouragement très important. Et je me rappelle aussi de la parole du recteur de notre église qui m'avait dit, n'oublie pas qu'un jour, on retournera à l'église mère, mais ce n'est pas le moment. Il m'avait dit ça à un moment où nous étions en pleine lutte contre toutes les autorités roumaines, qu'elles soient ecclésiastiques ou civiles. Donc le sentiment qu'un jour ou l'autre, et la certitude dans la foi qu'un jour ou l'autre nous serions tous réunis, n'a jamais été éteint. C'est une certitude et ça nous a fait vivre.
Justement, malgré le fait que l'État communiste a essayé de récupérer, même par la force, par la violence, l'Église roumaine de Paris.
L'État communiste a tout tenté pour essayer de récupérer cette Église, qui naturellement a une valeur historique, ils auraient payé n'importe quel prix. Et il ne faut pas oublier que dans l'immigration roumaine de l'époque, beaucoup de personnes étaient victimes de chantage, beaucoup de personnes ont été maltraitées, certaines assassinées, et d'énormes procès se sont déroulés sur des calomnies épouvantables. Moi-même, qui suis né à Paris, j'ai fait partie d'une liste de gens soupçonnés d'avoir été criminels de guerre, c'est tout à fait grotesque. Finalement, c'était très amusant en tribunal parce que le président du tribunal, me faisant décliner mon nom, ma date de naissance, etc., et étant né en 43 en France, il dit « Mais qu'est-ce que vous faites là ?» Et « Monsieur le Président, je vous le demande. » Bon, enfin, j'imagine même que peut-être, que ça c'est pour la petite histoire, quelqu'un de l'ambassade à l'époque a glissé mon nom dans la liste pour, comment dirais-je, torpiller finalement l'opération. C'est pas exclu. Mais pour revenir à l'Église elle-même, au milieu de toutes les autres institutions, c'est évidemment c'était le centre, le foyer spirituel où en permanence les réfugiés se retrouvaient, non seulement pour la divine liturgie, mais aussi pour des discussions de tout type intellectuel ou politique. Il y avait là une vie extrêmement active.
Il faut rappeler peut-être aussi le nom du grand écrivain roumain Virgil Gheorghiu, qui était devenu par la suite prêtre ici, dans l'église roumaine de Paris, et qui a essayé dans ses romans aussi de montrer le vrai visage du régime communiste de Roumanie.
C'est certain, nous avons connu ici le prêtre Constantin Virgil Gheorghiu, qui était donc un écrivain devenu très connu en France avec le succès de son livre « La 25e heure ». Un livre qui a fait beaucoup de bien d'ailleurs, et qui a bien fait connaître la situation. Un film d'ailleurs en a été tiré. Puis il y a un second livre de lui qui s'appelle « La seconde chance » qui va dans le même sens. Oui, nous l'avons bien connu, mais il y a eu d'autres prêtres que je dirais plus importants que lui, moins connus par contre sur le plan littéraire, ou pas du tout, mais qui ont été des lutteurs extraordinaires. À chaque fois que j'ai l'occasion de parler de cette période, je ne peux pas ne pas mentionner l'ancien recteur, le père Vassile Boldeanu, qui a été le fer de lance de la résistance.
Et comment on est arrivé, donc après plus de 60 ans de séparation, à la réunion entre l'Église roumaine de Paris et le patriarcat roumain?
L'Église roumaine qui avait été, dans les années 47-49, cathédrale métropolitaine de l'archevêque Vissarion, avait rejoint, en termes de canonicité, l'Église russe hors frontière, donc qui avait donné sa canonicité à nos activités religieuses. Et puis, pour différentes raisons, internes à l'Église russe hors frontière et internes à la nôtre, nous avons choisi de nous mettre sous l'homophore, c'est-à-dire sous la canonicité de Monseigneur Nathanaël, archevêque de Détroit, et de l'épiscopat américain pour une période synédiée, mais liée à ce que l'on appelle dans l'orthodoxie l'économie. C'est-à-dire que c'était une position canonique qui n'était pas normale, mais qui était exceptionnelle. Donc ceci existe chez nous, n'est-ce pas ? La possibilité de faire une exception, une entorse au règlement canonique lorsqu'il y a une nécessité absolue.
Et vous avez choisi Mgr Nathanaël parce qu'il est roumain lui-même.
Nous avons choisi Mgr Nathanaël parce qu'il est roumain lui-même, parce qu'il avait une activité qui était dans la lignée de celle qu'avait initiée Mgr Valerian Trifa en Amérique du Nord, et nous étions très proches de leurs idées. Et avec beaucoup d'amour et de vision, Mgr Nathanaël donc nous a pris sous son homophore, ce qui nous a permis de mûrir tranquillement les modalités d'un éventuel retour auprès de l'Église mère. Donc, sans que nous ayons ni les uns ni les autres à forcer les choses, nous avons appris à nous connaître, je pense notamment avec la métropole roumaine, nous avons appris à nous connaître, à nous apprécier, à faire tomber petit à petit toutes les réticences. Nous avons eu des offices où nous avons invité Mgr Iosif, le métropolite, entouré d'un aéropage d'évêques. On a réuni tous les évêques de la diaspora. Enfin, il y a eu toute une série de manifestations qui ont préparé notre retour au sein de l'Église mère. La décision a été prise le 10 mai dernier, lors d'une assemblée générale extraordinaire de toutes nos associations religieuses, qui ont voté à l'unanimité, c'est tout à fait merveilleux, le retour à l'Église mère, sans aucune condition particulière, sinon d'avoir présenté quelques doléances qui étaient importantes pour nous, c'est-à-dire de garder la haute main sur l'administration de l'Église, de façon à ce que le cap qui a été pris durant ce demi-siècle soit maintenu à l'avenir. Et en particulier, nous avons insisté sur le fait que nous célébrions nos fêtes nationales. Nous avons insisté sur le fait que la langue roumaine reste la langue liturgique. Puisque nous sommes redevenus cathédrale, qu'au moins dans la cathédrale, la langue roumaine reste la langue liturgique. Et aussi, nous avons insisté beaucoup auprès de son éminence pour que le choix des prêtres se fasse en parfaite harmonie, ce qui naturellement a été parfaitement accepté. Et nous en sommes très reconnaissants à Mgr Joseph.
Le fait que la diaspora a retrouvé son unité a été aussi béni par le patriarche Daniel de Roumanie qui est venu justement en visite pastorale à Paris pour bénir ensemble la cathédrale roumaine de Paris et aussi l'église en bois du palais métropolitain de Limours.
Alors effectivement, l'arrivée du patriarche Daniel a été une grande joie. C'était un voyage pastoral essentiellement. Mais il avait été préparé parce que, il y a 2 ans, le patriarche nous avait adressé un courrier très important dans lequel, en son nom propre et au nom de ses prédécesseurs, il demandait pardon pour les ennuis qui nous avaient été causés. Enfin, en un mot, il faisait repentance. Et cette décision a été le starter, si vous voulez, de notre accélération vers le retour à l'Église mère. D'ailleurs, si l'autorité principale, il est un évêque parmi d'autres, n'est-ce pas, dans l'orthodoxie, mais enfin, il est aussi le président du synode. Donc, l'autorité principale de l'orthodoxie roumaine a pris la décision de faire ce pas. Tout récemment, le président de la République roumaine a fait exactement le même pas, en demandant lui aussi pardon, au nom de ses prédécesseurs, qui eux n'ont pas bougé, pour tout ce qui avait pu se passer. Donc, si vous voulez, c'est dans ce climat de repentance, de pardon mutuel, que le rapprochement s'est fait, et une fois la réunion votée, rien ne gênait à ce que le patriarche vienne célébrer dans la cathédrale, et donc ça a eu lieu. Il est venu pour 2 raisons que vous citiez tout à l'heure. D'abord, c'était naturellement la sanctification de l'église de la métropole, une merveilleuse église qui en bois, comme vous l'avez souligné, qui vient du Maramourech, une région où on fabrique des églises splendides, qui est arrivée en pièces détachées, qui a été remontée ici par les spécialistes du bois de cette région. C'est une église qui devient maintenant un monument historique, un monument classé en tout cas, puisque dans la région de Limoux, on vient tout le temps les visiter, et dans la flèche en bois, absolument superbe. Donc c'était la première raison. La seconde raison était de venir resanctifier le sanctuaire, et notamment la Sainte Table, que nous avions rénovée pour son arrivée. On a entrepris des travaux immenses, puisque ça n'avait pas été fait depuis des décennies, et nous avons refait tout le sanctuaire, en attendant de pouvoir faire le reste. Et donc, entouré de nombreux évêques, et archevêques, et métropolites, Sa Sainteté a resanctifié notre sanctuaire en y déposant les reliques des premiers martyrs roumains.
C'était le moment solennel où vraiment l'église roumaine de Paris est redevenue la cathédrale de la métropole orthodoxe roumaine d'Europe occidentale et méridionale.
Exactement. Dans nos discussions avec Mgr Joseph, nous avions demandé à ce que l'église cathédrale métropolitaine de Mgr Pouillou devienne son église et sa cathédrale métropolitaine. Et en acceptant cela, son éminence, le métropolite Joseph, acceptait ipso facto d'être l'héritier de Mgr Pouillou. C'est un point très important qui a peut-être échappé à beaucoup, mais je ne dirais pas que la succession apostolique est passée par là, non, mais la succession historique, oui.
Et je trouve ça aussi très beau et symbolique, le fait que le patriarche est venu pour bénir, un jour après l'autre, les deux églises réalisées par les deux branches de l'émigration roumaine, l'ancienne émigration, la cathédrale de Paris, et les nouveaux arrivés, la nouvelle émigration, ayant à sa tête Mgr Joseph, qui a amené de sa région natale de Maramourech cette magnifique église en bois.
Voilà, c'est ça. Et je dirais même, je vous corrigerai un petit peu sur l'ancienne immigration et la nouvelle immigration, parce qu'aujourd'hui tout cela est mêlé. L'ancienne immigration, hélas, se rétrécit petit à petit pour les raisons biologiques et naturelles que vous savez. Mais aujourd'hui, à la cathédrale, je vois en célébrant, je vois les têtes, quelques têtes connues depuis presque un demi-siècle, et puis les nouveaux arrivés, et tout ça, c'est l'Église.
Vous venez d'entendre l'émission L'Église orthodoxe aujourd'hui. Les chants liturgiques ont été interprétés par le chœur des moines des monastères Simonos Petra et Saint-Antoine le Grand et les chorales Madrigal et Stavropoleos de Bucarest. Le réalisateur de l'émission, Bogdan Florin Vlaicu, vous souhaite une bonne semaine emplie de joie spirituelle et vous donne rendez-vous durant toute la semaine sur la rubrique podcast audio du site internet orthodoxie.com.